RCF.
Le Berry se raconte, comme chaque lundi, à 11h30 sur RCF. Aujourd'hui, Agora Défense, qui a publié il y a quelques mois un ouvrage, La vie militaire à Bourges et dans le Cher, aux éditions Linéaire, sous forme de chronique. Nous accueillons dans nos studios un de ses auteurs, en la personne de Françoise Trottignon, docteur en préhistoire de l'Université Paris-Sorbonne, ancienne présidente de la Société archéologique et d'histoire du Berry, une grande spécialiste que je vais questionner sur nos ancêtres gaulois du Berry, plus particulièrement sur Avaricum, notre bonne ville de Bourges, assiégée par le fin politique et généralissime Jules César en 52 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'origine de ce qu'on appelle la guerre des Gaules, plus exactement, pourquoi Rome, en la personne de Jules César, envahit-il la Gaule ? Françoise.
Eh bien, il y a déjà longtemps que les Grecs ont installé des comptoirs commerciaux sur les côtes méditerranéennes de la Gaule, puisque c'est en 599 qu'ils avaient fondé Phocée, qui deviendra Massilia, puis Marseille. Les Étrusques, puis les Romains, ont continué à faire du commerce avec ces tribus gauloises du sud, et petit à petit, pour protéger leurs activités commerciales, qui étaient quand même très importantes, ils ont porté secours aux populations locales contre certaines invasions, comme en 150, quand les Celto-Ligures ont eu des velléités d'invasion du territoire, puis en 50, contre les Cimbres et les Teutons, qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, ont décidé de quitter leur territoire du Nord et d'Europe centrale pour peut-être chercher un nouvel espace vital, comme leurs successeurs plus récents. De fait, petit à petit, de la vallée du Rhône aux Pyrénées orientales, sans compter une grande partie de l'Espagne, cette partie de la Gaule est considérée comme une partie du territoire de la République romaine. C'est ce qu'on appelle la provincia romana, la province romaine. Oui. Mais cette tutelle romaine, avec des troupes commandées par Marius, à son revers, puisque la Gaule paraît incapable de lutter seule contre les envahisseurs et la présence romaine trouve une certaine justification. Donc c'est un aveu de faiblesse de la part des tribus gauloises que de s'abriter sous la tutelle romaine. Jules César, lui, qui est issu de la noblesse patricienne, est né en 101 avant Jésus-Christ et il a fait ses premières armes en Cilicie. Malgré quelques déboires politiques au début de sa carrière, il a réussi à intégrer le premier triumvirat en moins 60 avant Jésus-Christ et il est élu consul en 59. Il obtient alors pour 5 ans le gouvernement de la Gaule cisalpine, donc de l'Illyrie, la côte d'Almate actuelle, puis la Narbonnaise. En 55, ses rivaux, Crassus et Pompée, sont élus consuls pour la seconde fois et lui, il va chercher évidemment à reprendre sa place. Pour les éclipser définitivement, puisqu'il a de grandes ambitions politiques, rien ne vaudra l'argent et de glorieux faits d'armes. Malgré une certaine réticence des autorités de la République romaine, il obtient ce gouvernement de la Gaule chevelue. Et son but, c'est par non seulement l'extension du territoire de la République, mais aussi des glorieux faits d'armes, de briguer un second mandat de consul qu'on lui accordera forcément. Et cette ambition est quand même facilitée par l'éparpillement et la division des tribus gauloises, puisqu'on a toujours su, encore maintenant, c'est que c'est divisé pour régner. Donc, voilà, les Bituriges Cubiles, les Momésies, César Verne, les Pictons, les Lingons, j'en passe et des meilleurs, tous sont très divisés et déjà Jules César disait trois Gaulois et à trois tribus différentes.
Très bien. Voilà. Françoise, alors pourquoi le siège d'Avaricum ? Quel était l'intérêt stratégique pour César de cette cité des Bituriges ?
Alors s'emparer d'une ville aussi grande qu'Avaricum aura un effet décisif sur l'opinion romaine dont il brigue les suffrages, comme je l'ai dit. Avaricum est considéré comme une très riche ville qui a une quarantaine de mille habitants, ce qui est quand même bien. Les fouilles actuelles faites à Porsec ont montré, et même rue Littré, ont montré qu'elle commerce depuis longtemps avec la Grèce, puisqu'on a trouvé de la céramique attique à figure noire, donc du 5e siècle. Et donc c'est une ville importante. Et Jules César va essayer d'instrumentaliser cette prise de la ville. Alors pourquoi est-ce qu'il prend la ville ? C'est qu'au début, l'expédition de César se passe parfaitement bien. Il utilise habilement les divisions des tribus, il utilise des supplétifs indigènes, c'est une grande tradition, ça aussi. Il joue les uns contre les autres. Et par contre, les tribus qu'il a soumises, il leur demande un lourd tribut financier. Et là, la tutelle romaine commence à peser lourd. Les Gaulois commencent à avoir envie de s'unir contre cet envahisseur romain. Et donc, ils s'unissent et ils déclenchent une sorte d'insurrection à Orléans, où ils massacrent les négociants romains. Comme Jules César était parti un petit peu avec ses troupeaux verts en Italie du Nord, il revient à Dardare, et là, il prend Châteaulandon, il prend Génabome, et il se dirige vers les Biturisques-Cubis pour prendre la ville d'Avaricum.
Françoise, comment expliquez-vous la prise d'Avaricum ? L'inexpérience des valeureux gaulois ? La malchance ? Des querelles intestines, ou alors un Vercingétorix contesté.
Vercingétorix est un fin stratège. D'ailleurs, il n'aurait pas réussi à prendre la tête des Arvernes s'il n'avait pas été un habile chef. Et il sait que, d'un point de vue militaire, il ne peut pas lutter contre les légions de Jules César. Ni d'un point de vue nombre des troupes, ni d'un point de vue armement. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de couper les approvisionnements de l'armée romaine en faisant une sorte de guerre de harcèlement et en pratiquant la politique de la terre brûlée. Bon, comme Rostopchine l'a fait à Moscou devant les armées de Napoléon, c'est une grande tradition. Et c'est toujours efficace. Mais les Gaulois ont envie d'en découdre. Et ils accusent Vercingétorix de trahison. Donc, comme Vercingétorix a installé son camp à 16 000 pas, c'est-à-dire à peu près 25 km d'Avaricum, on pense dans la forêt d'Allogny, mais on n'a pas encore trouvé à ce jour exactement l'endroit du camp de base. Vercingétorix, pour faire voir qu'il n'est pas un traître, qu'il ne veut pas trahir les Arvernes, va à Avaricum avec 10 000 soldats. Et qui nargue, il faut le dire, qui nargue les légions. Et Jules César commence à être un petit peu fatigué. D'une part, lui aussi, son pouvoir est mis en doute par ses légionnaires, qui sont quand même fatigués, parce que tout ce monde-là, ça mange. Ça a besoin de fourrage pour les chevaux. J'oublie de dire que les légionnaires ne se déplacent pas seuls. Il y a souvent des enfants, des femmes qui pratiquent le dernier métier du monde. Tout ça, ça fait du monde. Donc, Jules César décide de lancer l'assaut pour en finir glorieusement.
Le Berry se raconte, Bernard Dupéra.
Pour ceux qui arriveraient en retard, nous sommes toujours sur RCF. Aujourd'hui, Agora Défense, qui accueille Françoise Trottignon, grande spécialiste de l'histoire du Berry, en particulier de la préhistoire, et aujourd'hui, d'Avaricum, le siège d'Avaricum et ses conséquences. Françoise, la ville d'Avaricum, après sa prise par les Romains, a-t-elle été pillée, brûlée, les habitants massacrés, comme le dit Jules César ?
Alors, il est probable que les légionnaires se payaient sur la bête. Donc, on livrait la ville au pillage. Ça, c'est sûr, il fallait bien qu'ils aient quand même quelques récompenses. Mais on n'a pas trouvé à ce jour ce qu'indique Jules César dans ses commentaires, à savoir 40 000 morts. Il n'y a aucune sépulture d'urgence, c'est-à-dire fosse commune, où on trouve vieillards, femmes, enfants mêlés. C'est ce qu'on appelle des sépultures d'urgence. On n'en a pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en trouver un jour, mais pour le moment, on n'en a pas trouvé. Et quand Jules César raconte dans De Bello Gallico qu'il est resté que 800 seulement personnes ont survécu, ça veut dire qu'il nous en manque 39 200. On ne les a pas. D'un autre côté, comme la ville, après l'installation de l'Empire romain, a subi l'installation de ce qu'on appelle le programme architectural avec forum, amphithéâtre, théâtre, etc., il est possible qu'on ait mis un coup de râteau sur tout ça et qu'on ait déblayé pour agrandir la ville. Mais à ce jour, on ne trouve pas de traces de massacre. Alors il est possible que César, qui pourtant ne ment pas tellement dans son commentaire, ait arrangé un petit peu la réalité. En réalité, je pense que les femmes et les enfants sont plutôt partis en esclavage.
Alors, justement, pensez-vous que l'histoire aurait retenu le siège d'Avaricum si Jules César ne l'avait pas mentionné dans son récit ?
Eh bien, non. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, on ignore même le nom de Vercingétorix. Tout comme le siège d'Avaricum, alors que le texte de Jules César est bien connu, puisque on connaît les classiques latins depuis le début de la Renaissance. On ne s'intéresse tout simplement pas aux Gaulois ou aux Celtes. Et seule la présence romaine est connue en Gaule, enfin dans le royaume de France. Bon, on ne peut pas ignorer le pont du Gard, les arènes de Nîmes, le théâtre d'Orange, le trophée de la Turbie, alors qu'il faut attendre les travaux du marquis de Caylus pour qu'on découvre les alignements de Carnac ou la table des marchands à Locmariaquère. Et ça, on arrive facilement au début du XIXe siècle, aux frères Augustin et Amédée Thierry, Augustin en particulier, qui écrit en 1828 l'histoire de la Gaule, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine. On voit tout de suite, en utilisant les mots « soumission » et « domination », qu'on est déjà sur un terrain politique. Après, on va avoir les travaux de Michelet et d'Henri Martin, qui sont bien oubliés depuis, mais leur rôle est fondamental dans la mise en valeur des antiquités nationales, des Gaulois et des druides, où ils se brodent toute une histoire, les druides qui coupent le gui avec leur serpe d'or, qui font leur des cérémonies sacrées. La mode est aux Gaulois, en littérature et en peinture, avec des travaux pompiers. On voit des guetteurs, l'oreille collée au sol, Vercingétorix qui jette d'un air bravage ses armes aux pieds de Jules César, assis sur son trône. On redécouvre les Gaulois. Hein, la mode est aux Gaulois. Et on redécouvre un passé national qui est en plus la première unité contre un envahisseur étranger et dont le héros, c'est un jeune homme avec des belles moustaches, avec un casque orné de deux ailes et qui brandit un grand bouclier. Alors, le siège d'Avaricum va sortir alors de la nuit où il a été plongé depuis 50 ans avant Jésus-Christ, malgré les travaux de Jules César. Il y a une maquette du siège réalisée. À Bourges, on découvre, à l'occasion des travaux de la construction de la fonderie et de la percée du boulevard Auger, des tumulus, des sépultures, avec des beaux torques en or, en bronze, des tombes à chars. On s'aperçoit que les Gaulois ne sont pas des fiers sauvages qui vivaient dans des huttes en branchage, mais que ce sont des gens qui ont une civilisation élaborée, qui n'est pas la même que celle des Romains, mais qui est les antiquités nationales. Et j'ajoute qu'on développe d'autant plus ce nationalisme qu'il y a d'autres nationalismes en Europe, le nationalisme prussien, l'unité italienne, donc on a intérêt à se découvrir une identité propre.
Très bien. Merci Françoise pour ces explications passionnantes qui nous incitent à relire Jules César, mais aussi la vie militaire à Bourges et dans le Cher, avec le critique de l'historienne et de l'archéologue que vous êtes. Et à vous, chers auditeurs, je vous dis au mois de novembre pour une nouvelle émission sur l'histoire militaire de notre Berry.